Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. C'est le supplément de l'épisode 360 qu'on enregistre le 2 avril 2024. Je suis ravi de vous retrouver et puis vous connaissez maintenant la vocation des épisodes suppléments, c'est que si vous voulez l'essentiel de l'actu tech, vous écoutez l'épisode hebdomadaire, donc c'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. Et si jamais vous n'en avez pas assez de nous entendre parler, mais aussi parler de tech, eh bien vous pouvez écouter le supplément qui revient sur des infos qui étaient peut-être moins incontournables, mais qui méritent malgré tout qu'on s'y attarde un petit peu. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, nickel.
Eh ben écoute, merveilleux, continuons sur cette belle lancée et puis abordons toutes les news tech. Je vous rappelle juste avant, bien entendu, que si jamais vous aussi vous trouvez que peut-être pas participer à titre individuel, mais bon, quelque part, est-ce que les auditeurs participent pas un peu, Guillaume ?
En réagissant, en mettant des commentaires et des étoiles, ils participent.
C'est ça.
Bien sûr que oui.
Et même, j'allais dire, s'ils n'étaient pas là pour écouter, est-ce qu'il y aura encore un podcast ? Tu vois, si on était tous les deux à parler au bout d'un moment, hein ? Donc voilà, donc vous participez et merci de participer. Mais si vous voulez participer encore plus, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé et nous soutenir financièrement et vous aurez en échange un flux pour écouter Tech Café dans votre app de podcast habituel, sans la pub. Donc vous pourrez, en plus de nous soutenir, profiter de cette petite contrepartie. Et puis, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/discord. C'est un petit raccourci qui vous amène directement sur le serveur Discord de Tech Café. Et puis, vous avez aussi plein d'autres liens et les articles qui sont cités pour les sujets qui sont abordés dans les épisodes sur techcafé.fr. Vous pouvez même déposer des petits commentaires sur techcafé.fr. C'est pour notre plus grand plaisir qu'on en prendra connaissance et qu'on pourra éventuellement les relayer. N'oubliez pas non plus de nous évaluer sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou nous laisser des petites étoiles sur Spotify. Dans cet épisode, on va donc vous parler de plein d'autres sujets que Guillaume a sélectionnés. Alors parfois, c'est difficile pour moi de les rattacher derrière des thématiques bien précises. Hein, je dois te le confesser, Guillaume, mais
ouais,
après tout, peu importe.
On va le dire, c'est
voilà. Surtout sur celui-ci, je trouve. Mais en tout cas, plongeons-nous dans ces news, telle une piscine à balles. Tu vois, imaginons que chacune des petites balles, c'est une petite news. Plonchons dedans sans autre forme de procès. Et on va commencer par quelque chose qu'on ne voit plus, Guillaume. On est en 2024 et il y a vraiment quelque chose, on n'est plus habitué à ça. Quelque part, ça fait bizarre, ça fait figure d'exception. C'est quoi ces distributions d'applications, de logiciels, de suite Office sans abonnement ? Non mais attends, mais bon, Guillaume, c'est pas possible. C'est un 1er avril ça, non ?
Écoute, on va commencer l'épisode avec du vintage, voilà.
C'est fou,
avec
ça.
Du vintage, effectivement, et ceux qui n'aiment pas les souscriptions, bah ça existe. Hein. Et Microsoft, même lui, il est bien obligé à son corps défendant de leur proposer une offre. C'est pour ça qu'il va exister, attention, tenez-vous bien, un Office 2024. Et oui, un Office qui résidera sur votre propre machine que vous pourrez utiliser sans rien verser chaque mois, peut-être même sans Internet, comme aux temps anciens. Comme à l'âge obscur des disques en plastique. Incroyable, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, Microsoft indique bien que cette version exotique sera uniquement dédiée à des cas extrêmes et exceptionnels, un usage de niche pour les marginaux. Les gens normaux et bien éduqués, bien entendu, vont utiliser Office 365 comme Dieu l'a voulu. Office 2024 sera mis à jour pendant 5 ans, et après, vous pourrez quand même l'utiliser, j'espère. On ne connaît pas les prix, et bon, l'inflation, tout ça, je crains le pire, mais bon, peut-être pas. Et oui, c'est le vintage revient en force, écoute, on commence cet épisode avec ça, et on va peut-être parler aussi de notre truc que t'as pas vu depuis longtemps. Enfin si, en fait, on en voit partout, mais c'est ça qui est vraiment rigolo, c'est les vinyles. Les vinyles,
ouais.
C'est doublement vintage, les vinyles, c'est même 40-age, voire 60-age. Les ventes continuent de croître et de dépasser allègrement
celles
des CD.
Mais non, mais même pas, hein. Même pas. Hein. C'est, je vois énormément de populations très jeunes qui kiffent les vinyles.
Ah,
tu sais que c'est des cadeaux de personnes de mon entourage.
Ah,
ils veulent des vinyles.
Alors, les chiffres US, d'ailleurs, sont marrants. Il y a 43 millions de vinyles qui ont été vendus en 2023. C'est 6 millions de plus que les CD, dont les ventes sont, eux, en recul. Pour eux, sont en recul. Donc, il s'en est vendu 700 000.
C'est une tendance qui s'accentue.
Ouais, 700 000 CD de moins ont été vendus cette année que l'année d'avant. Mais les Américains ont acheté encore 500 000 cassettes audio l'an dernier, parce qu'apparemment, ils s'en vendent encore, ce qui était absolument incroyable.
Bon, parce qu'il n'y a vraiment pas d'avantage, quoi. La cassette, il n'y a pas une saveur du son particulière, c'est vraiment pas pratique, c'est pas beau comme objet.
Non, mais c'est bon, écoute, qu'est-ce que t'as contre la cassette ? C'est quoi cette cassettophobie, là ?
Bouh la cassette.
En tout cas, le chiffre d'affaires du vinyle progresse, hein, mais bon, alors le streaming reste toujours immense, voilà, super majoritaire, hein, puisque c'est 84% des recettes. À noter que les Américains ne sont que 3% à acheter leur musique en dématérialisé. Donc soit on stream, soit on achète en physique, mais bon, entre deux, ça n'a pas d'intérêt. En France, c'est un peu la même tendance, on a 5,5 millions de vinyles qui ont été achetés en 2023, en progression de 5,5%, par une majorité de jeunes, effectivement, hein, plus de la moitié ont moins de 35 ans. Donc le vinyle, c'est désormais 12% du chiffre d'affaires de la musique. Donc on entre un vrai goût pour le physique, voilà, et certains
c'est mécaniquement inexplicable. Enfin, on peut raisonner par sentiment d'avoir l'objet.
Allez, nous allons avoir cette discussion. Le vinyle est-il supérieur au CD et supérieur au Spotify super compressé tout pourri? Je sais pas, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, effectivement, il y a un côté sensuel. Écoute, au vinyle, il y a un côté social aussi. Tu peux voilà, tu peux te réunir pour écouter un disque. T'as des artworks qui sont plutôt bien foutus. Souvent, c'est plutôt bien présenté. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Au-delà de la qualité du son, qui est un débat que je ne veux pas avoir. Il y a aussi plein d'avantages, si tu veux, à ritualiser l'écoute de la musique comme ça, et l'existence des albums, etc. C'est des choses qui continuent à plaire à une partie, en tout cas du public, une partie qui n'est pas négligeable en réalité, parce que 12%, c'est pas négligeable comme public. Et donc oui, le physique, c'est fantastique, c'est pour ça qu'on a une rubrique où on va parler que de trucs physiques. Même si, effectivement, il y a très 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 peu d'autres de trucs plus précis qui relient ces sujets, je reconnais.
Mais oui, il y a un fil conducteur malgré tout. Mais c'est marrant, je trouve que le vinyle est pour moi l'exemple le plus poétique qui me montre que la logique de la consommation de l'être humain n'est pas manipulable à 100%. Tu vois, pour moi, c'est un terrain de revendication de l'humanité, le vinyle, pour dire... Enfin, moi, vraiment, objectivement, je pense qu'il y a plein d'autres solutions pour écouter la musique de manière plus pratique.
Le vinyle, c'est un gros avantage aussi, c'est que tu le possèdes. Parce que t'es abonné à Spotify, demain t'es plus abonné, t'as plus de musique.
Mais le CD, tu le possèdes aussi, tu vois.
Oui, mais le CD, ça sonne pas pareil.
Ah, bon, je ne rentrerai pas dans ce débat.
Non, on avait dit qu'on rentrera pas dedans.
Le piège. Bon, allez, en tout cas, big up à vous, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment d'ailleurs le moment vinyle et qui disent j'adore chez moi poser un vinyle, m'installer dans le canapé et boire un petit café, un petit alcool comme ça. Bon, écoute, big up à vous. C'est pas ma cam, mais je respecte énormément et je trouve ça très chouette.
Je fais pas de pub pour la consommation d'alcool.
Ah oui, certainement pas. N'allez pas imaginer que je vous y encourage, bien entendu. Par contre, les vinyles, achetez-en, hein, c'est bien. Et oui, jusque dans les magasins, c'est fou, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé me balader dans des rayons musique de magasins. Et en fait, j'ai été marqué de voir que les rayons vinyles sont immenses.
Ah, mais clairement, c'est clairement.
Et j'aime acheter des vinyles en cadeau.
Ah, parce que cadeau, parce que je crois que t'as pas de platine, toi.
Ah non. Ah non, moi, j'ai pas de platine du tout. J'ai même pas de lecteur CD. Enfin, si j'en ai. Via des appareils qui ne me servent pas à écouter la musique. Mais offrir un vinyle, pour certaines personnes, c'est un... Allez, nostalgie aussi, Guillaume, bientôt peut-être, en tout cas, avec les Hackintosh, hein, ceux qui aiment l'expérience Apple, mais qui ne veulent pas du matériel Apple et qui veulent la beauté de la configuration du PC.
Oui, c'est un truc que j'ai jamais essayé dans ma vie. Alors, parmi vraiment beaucoup d'autres trucs, finalement, que j'ai jamais essayé.
C'est vrai que ce serait marrant que t'essayes.
C'est vrai que j'ai jamais essayé d'installer macOS sur un PC. Sans doute parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Mais bon, néanmoins, ça a été une véritable vogue pendant la décennie passée parce que les Mac avaient des processeurs Intel, pas forcément, pas forcément des configurations incroyables. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse vogue de ce truc-là. Et ça risque fort de disparaître avec les dernières versions de macOS, en particulier macOS Sonoma, qui a viré des pilotes qui restaient des versions du système pour les CPU Intel, et qui étaient cruciales pour l'installation. Donc il est toujours possible de faire des Hackintosh avec Ventura, mais évidemment, rester bloqué sur une version spécifique, c'est mort à long terme. Et donc les Hackintosh sont peut-être en voie de disparition, alors même si c'était pas mon truc, c'est vrai que je trouvais ça rigolo, hein. C'est toujours rigolo de faire des trucs pas prévus, de faire des trucs interdits. Non, c'est comme l'alcool, on ne fait pas la publicité de trucs interdits, ça peut être mal interprété ce que...
Je préfère vous inciter à installer un Hackintosh qu'à consommer trop d'alcool. Hein.
Oui, je sais, sans doute. Mais bon, c'est vrai qu'avoir un PC surpuissant qui tourne sur macOS, c'est pour un Mac plus puissant qu'un Mac, en quelque sorte, oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Et c'était vraiment la raison des gens, que les gens avaient pour faire ça, quoi. C'est vrai que désormais, les CPU Apple sont de plus en plus puissants, les logiciels de plus en plus matures, et peut-être que la pertinence des Hackintosh n'en est que de plus en plus réduite.
Ouais, effectivement. On continue toujours dans une rubrique matérielle, mais pas le matériel tout beau hein, qu'on achète ou qu'on configure soi-même, mais le matériel qu'on peut réparer, Guillaume, parce que la loi fait l'objet, la réparation fait l'objet de configurations légales dans l'Oregon.
Ouais, l'État de l'Oregon passe lui aussi sa loi pour le droit à réparer, c'est la SB 1596, alors ça sonne tellement bien ça,
pas très sexy.
C'est juriste, c'est bon, on est poète.
Ça veut dire quoi, SB
J'ai pas du tout regardé.
J'arrive même pas à faire de blagues avec ça.
Mais voilà, enfin, en tout cas, ça a été voté, ce truc-là, une large majorité, hein, par 2/3 des participants, et comme en Californie, entre autres, hein, elle oblige les fabricants à mettre à disposition des pièces et des documentations, et en plus, elle interdit le verrouillage hardware. Donc cette pratique dont Apple était friand, qui consiste à faire en sorte que les composants se parlent entre eux et refusent de fonctionner si la réparation ne se fait pas exactement comme le fabricant l'a prévu, en l'occurrence souvent par ses propres soins et à ses propres tarifs. Des composants tiers identiques devront pouvoir être installés et ne pas provoquer de messages d'erreur anxiogène ou de dégradation intentionnelle des fonctionnalités. La loi entre en application le 1er janvier prochain. Puis bon, évidemment, elle veut ralentir le cycle infernal voilà, des renouvellements de téléphones, hein, prolonger la vie de nos téléphones. Et d'ailleurs, comme la plupart des autres lois, la nouvelle réglementation de l'Oregon ne concerne pas d'autres équipements qui pourraient avoir été pertinents de couvrir, quoi. Par exemple, les consoles de jeux, les climatiseurs, les engins agricoles, etc., etc. C'est dommage, mais bon, c'est mieux que rien. Et ouais, non plus, effectivement, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est toujours des lois... Enfin, il y a beaucoup de domaines, effectivement, qui ne sont pas couverts par ces lois, pour des raisons ou d'autres, on va dire. Bon, pour les trucs et les équipements médicaux, on peut éventuellement le comprendre. Bon, après, voilà, c'est pour les trucs agricoles, c'est discutable, on va dire. Donc il y a plein... Voilà, il y a encore du boulot à faire, mais enfin, évidemment, c'est quand même pas dans la bonne direction.
Ouais, et puis je pense que c'est une étape, il ne faut pas voir ça comme une finalité et un aboutissement. Je pense que le smartphone est assez emblématique de la catastrophe en matière de non-réparation parfois. Mais je ne doute pas une seconde que si ça convainc et qu'on voit des changements, ça va s'étendre à plus d'appareils. On va en Chine, Guillaume, où la voiture électrique a commencé à s'installer à la fois dans les usages et dans les marchés, sauf que le prix prend cher, les prix prennent cher des voitures électriques.
Les prix prennent pas si cher que ça, justement, c'est ça qui est bien.
Oui, au contraire, à l'inverse, oui.
C'est vrai que la Chine, c'est pas pareil, hein, c'est un pays qui est très différent. La preuve, là-bas, les prix, ils baissent, donc c'est vraiment très très différent d'ici. Et puis, paradoxalement, ça rend pas mal de gens très très vénères. Bon, la Chine, c'est elle est dans une période délicate économiquement. Hein. La croissance est très faible, le chômage est élevé, et les salaires stagnent, au mieux, et les consommateurs dépensent moins. Alors, quand on est dans un secteur qui est ultra concurrentiel et qui vend des trucs chers, eh bien, c'est pas facile. Et c'est le cas du marché de la voiture électrique hein, qui a explosé en Chine ces dernières années avec plein de marques qui font plein de modèles qui sont parfois très luxe et qui se vendent pas bien. Et du coup, les prix baissent beaucoup. Alors vous me direz, c'est super. Sauf que c'est super si, vous venez pas déjà d'acheter une voiture dont le prix a baissé de 20% en une semaine. Et même si vous voulez acheter, c'est emmerdant aussi parce que vous achetez quand ? Quand est-ce que vous pourrez être sûr de pas perdre de l'argent ? Tout ça, ça énerve les consommateurs et pourtant, c'était assez inévitable parce que le secteur de la voiture électrique, il a connu une croissance fulgurante ces 5 dernières années. Hein. Ça a été porté par un gros soutien du gouvernement, puis par une économie chinoise qui marchait sur l'eau, hein. En tout cas jusqu'à il y a peu. Et ça, c'est fini. La croissance est en nette baisse cette année, hein, surtout par rapport à 2022 et avant. D'ailleurs, les subventions à l'achat ont cessé en 2022. Et il y a même des boîtes qui ont reçu l'appui de géants comme Baidu, hein, c'est le cas de WM Motors, ou de Tencent pour iWays, qui sont carrément à court d'argent, et il y a des boîtes comme Singulato ou Levdevo qui sont carrément en faillite. Ce qui pose un autre ensemble de problèmes, parce que plus de fabricants, plus de mises à jour, plus de pièces, plus de réparations, votre voiture n'a pas intérêt à tomber en panne, parce que les logiciels de bord n'ont pas intérêt à bugger, hein, parce que sinon, comment on fait une mise à jour ou quoi que ce soit. Donc votre véhicule peut devenir une très très grosse brique du jour au lendemain, et c'est pas terrible. Donc on est passé d'une phase explosive à une phase de consolidation pour le marché de la voiture électrique chinoise, et il y a encore trop de marques et trop de modèles, ça c'est sûr. D'après une boîte de consulting qui s'appelle Alix Partner, il n'y a qu'une trentaine de marques qui pourraient rester viables économiquement en 2030, il y en a 160 aujourd'hui. Donc les prix vont rester à la baisse, hein, autant sur le neuf que sur l'occasion, et donc on a un marché et des soucis de smartphone quasiment, pour un achat de voiture qui est d'ordinaire un achat long terme, donc c'est vraiment très bizarre, hein, ta voiture c'est 10 ans ou plus. Là, on a des myriades de modèles, pas toujours ultra fiables d'ailleurs, hein, avec des logiciels pas toujours super bien cuits, dont le support peut cesser brutalement, et donc les prix fluctuent en plus. Bon, voilà. Donc je souhaite bien du courage à Tesla, d'ailleurs, au passage, pour rester à flot ces prochaines années dans l'empire du milieu, parce que ça va tanguer sec. Hein.
Ouais, ça va être violent. On reste en Chine, Guillaume, mais en matière de processeurs, a priori, il pourrait y avoir un bouleversement, non, parce que ce ne serait pas si soudain que ça, mais une confirmation de l'évolution du profil type de l'ordinateur en Chine, hein, avec définitivement plus d'Intel, plus d'AMD, mais d'autres architectures, dont certaines qui te sont si chères.
Et oui, on parle
tu
de
vois de qui je veux parler.
Mais d'ailleurs, mais évidemment, tu sais bien. C'est obligatoire. Donc, on va parler de plus de processeurs IA et de processeurs pas IA aussi, hein, d'ailleurs, parce que si l'Occident fait un embargo sur les puces, voilà, sur ses puces à lui, et veut pas en vendre à la Chine, bah, il faut bien se dire que de toute façon, la Chine veut de moins en moins en acheter. Fin décembre dernier, le gouvernement chinois a pondu une liste de processeurs autorisés pour leurs ordinateurs. Alors, pour les super ordinateurs, ils utilisent déjà leurs propres puces, hein, comme les Sunway ou les Longsun. Pour les ordinateurs grand public, Shanghai a donné une liste des 18 puces préférées et aucune n'est occidentale. Intel et AMD sont complètement absents. Et l'architecture Intel elle-même n'est présente qu'à travers les Shaoxing Integrated Circuits qui possèdent une licence pour produire des compatibles Intel. C'est pas des puces Intel. Donc on est très préférentiellement sur du MIPS ou du RISC-V. Et oui, bah normalement RISC-V obligatoire. En ce qui concerne les logiciels, c'est pareil, on a le droit à des distributions Linux locales. C'est pas la première fois que les Chinois nous font le coup de la préférence nationale, évidemment. Mais là, c'est en train d'entrer en vigueur, et d'ailleurs, les magasins sont en train d'écouler leur stock de matos occidental petit à petit, ça sera remplacé par du tout chinois. Alors, il n'y a rien dans cette liste qui soit super avancé technologiquement, hein, par rapport aux meilleurs trucs de chez AMD, Intel ou Nvidia. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas des trucs, c'est pas des bêtes de course. Mais pour des PC standards, ça peut suffire. Déjà, les Lungson 3A 6000 de l'an dernier, qui avait donc, voilà, on a vu des tests un petit peu l'an dernier sur les performances de ces puces totalement chinoises, hein, et c'était déjà comparable à des Core i3 de génération 10 ou des Ryzen de série 3000. Donc oui, c'est pas des bêtes de concours, mais ça suffit déjà pour pas mal d'usages. Et donc c'est une architecture MIPS, hein, c'est pas du tout de l'Intel, hein, c'est du MIPS à 2,5 GHz. Sur 4 cœurs, enfin en tout cas les processeurs, donc les grands publics, c'est du 4 cœurs, avec des registres de 156 bits comme de la VX, avec un analogue de l'hyperthreading, hein, comme chez Intel ou AMD, et on a des configurations qui vont de 2 à 32 cœurs. Donc ça peut prendre des proportions qui sont assez correctes, hein, même pour des configurations assez costauds, et c'est pas ridicule du tout. Surtout que ça progresse vite, parce que la génération 6000, donc cette génération-là, là, dont on vient de parler, elle est très très largement meilleure, genre presque deux fois quand même, que la génération 5000. Alors, c'est sûr que question puissance brute, c'est pas ça. C'est vrai, si on passe dans le domaine de l'intelligence artificielle, hein, les performances sont très très importantes, hein, dans ce truc-là. Mais bon, il n'y a pas que ça. Les performances, c'est pas 100% du problème. Il y a déjà, il y a tout simplement la disponibilité. Parce que bon, ben, en Chine, on n'a pas accès, hein, aux puces Nvidia de dernière génération. Et même en Occident, il n'y en a pas pour tout le monde, des puces Nvidia. Donc, et après, ben, il y a le prix. Et toutes les boîtes qui voudraient se lancer n'ont pas 150 millions à mettre dans un serveur H100 ou B200, ou que sais-je. Donc on sait que Huawei, par exemple, va certainement offrir les meilleurs GPU pour l'IA du pays, c'est probable, et qui seront d'ailleurs bien moins chers que les Nvidia, mais même là, ils pourraient être bien loin du prix plancher. Parce qu'en réalité, ce qui est marrant et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, bah oui, comme on disait pour les Russes avec les jeux vidéo, là, il y a pas longtemps, Le vide laissé par les Occidentaux va être comblé par tout un tas de boîtes qui vont essayer plein de choses. Et en particulier, des accélérateurs IA petit budget. Et donc il y a une boîte qui s'appelle IntelliFusion, qui veut se lancer avec...
Ça fait un peu has-been.
IntelliFusion.
Pardon. Ouais. C'est un télévision, peut-être, ça me fait penser à la marque de la console que j'avais quand on était petit.
Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, bah, et encore, c'est pas IntelliFusion 2000, ça aurait pu. Hein. Mais donc, ils veulent.
Enfin, super cas, IntelliFusion.
Ils veulent lancer des accélérateurs qui s'appellent les Deep Eyes. Bon, ça, c'est pareil aussi, on sait pas trop, mais. En tout cas, les Deep Eyes, c'est pas des trucs qui visent le top du top. Ça vise 90% du scénario, ça vise le ventre mou, quoi. Et il le fait avec une puce qui coûterait $140. Alors, ok, pour ce prix, vous aurez pas un équivalent du H100, hein, ça serait pas dans le top. Mais vous aurez dans les 48 à 96 teraops, en 8 bits ils disent, soit à peu près autant qu'Intel estime nécessaire pour commencer à faire quelque chose en local sur ton PC. Voilà, c'est la spécification du AIPC, c'était 40 teraops, a priori. En tout cas, les Deep Eyes seront purement chinois, donc c'est des puces qui sont fabriquées localement, qui utiliseront l'architecture libre RISC-V, qui seront utilisables en cluster pour accélérer l'inférence et l'entraînement aussi, et qui seront vendues à des prix planchers. Alors bien sûr, vous n'allez pas pondre un GPT-5 ou un GPT-6 avec ces trucs-là. Ça va être même avec une nuée de Deep Eyes, vous allez avoir beaucoup de mal à faire des trucs, des modèles fondation vraiment super puissants. Mais ce n'est pas le sujet. encore une fois, on vise 90% des scénarios, on vise la bedaine, le ventre mou. Et donc des modèles bien plus modestes, et il y a des quantités d'usages hein, pour des modèles qui sont plus modestes. Hein. La génération d'images, c'est beaucoup moins de puissance. Hein. La génération de voix, de musique, l'inférence en local pour des petits modèles de langage, des systèmes de vision, ce que tu veux. Et donc, il y a peut-être un segment de l'IA budget, qui va d'ailleurs pas immédiatement menacer Nvidia, même si lui aussi hein, vise un petit peu le edge computing comme ça, avec ses Jetson ou ses GPU mainstream, hein, tout simplement. Mais bon, il est clairement devenu Nvidia la cible à abattre pour à peu près tout le monde. Pour à peu près tous ceux qui fabriquent des puces. Ouais, c'est vraiment clair. Et d'ailleurs, on peut embrayer là-dessus, parce qu'on sait déjà, de toute façon, voilà, que les gros, hein, comme Google, Microsoft, Meta ou Amazon, bah, ils ont leurs puces à eux. Ils ont leur TPU, ils ont leur Maya, ils ont leur MTIA, ils ont leur Trainium, dans le cas d'Amazon, ils ont leur solution maison. Bon, AMD, il a sa propre solution, il veut imposer les Radeon Instinct, et Intel, ils ont les puces Gaudi, qui veulent aussi là-dessus. Qualcomm ACNPU, voilà, qu'il intègre de toute façon un système sur puce hein, qui vend sur ses PC ou sur ses futurs PC, et puis sur ses téléphones, et ça fait déjà un bon paquet de trucs différents, tout ça. Hein. Donc ouais, c'est compliqué, évidemment, parce qu'à chaque fois, bon, bah, c'est un hardware différent, c'est une architecture différente. Et donc c'est pour ça que c'est organisé, pour essayer d'unifier un petit peu tout ce bordel, c'est d'organiser un consortium de plusieurs entreprises autour de UXL. Alors, UXL, c'est Unified Acceleration Foundation. Et le but du UXL, c'est simple, c'est de créer une alternative à CUDA. Donc, CUDA, c'est le langage des GPU NVIDIA. Il est en quasi-monopole sur le deep learning, hein, on peut le dire. Et pourtant, il y a des alternatives. Il y a ROCm chez AMD. Et il y a Cycle, alors c'est écrit Cycle, mais ça se prononce Cycle, chez Intel aussi. Et bon. Le truc, c'est que CUDA, bon, bah, il était là avant, il était là depuis très longtemps, et bon, ben bah, voilà, du coup, c'est. Bon, bah, c'est efficace aussi, hein, faut pas dire le contraire, du coup, bah, c'est en quasi-monopole. Et donc, UXL est constitué de poids lourds comme Google, ARM, Qualcomm, Intel, etc. Et il propose d'ailleurs à Intel déjà une API unifiée. Alors, une API unifiée, c'est une API qui s'adresse à plein de hardware différents. CUDA ne s'adresse exclusivement qu'au hardware NVIDIA, alors que OneAPI peut potentiellement s'adresser à plein de choses. Donc OneAPI, donc c'est un truc interne, hein, ça essaye de gommer les différences entre le langage et les accélérateurs auxquels il s'adresse. Donc UXL va peut-être se focaliser dessus, hein, puisque ben, Intel en fait partie, donc ce serait assez logique, permettre à OneAPI de croître, d'être beaucoup plus largement adopté, et du coup d'affronter la dominance de CUDA. Et il y a Samsung qui fait aussi partie du UXL. Et ce qui est intéressant avec Samsung, c'est qu'il est parti à fond lui. Il est en train de mettre au point son propre accélérateur de deep learning, qui s'appelle le Mach 1. Et pour le coup, lui, il se veut un concurrent frontal de NVIDIA. C'est-à-dire que le Mach 1 sera probablement un concurrent frontal de Blackwell. Donc la toute dernière puce dont on a parlé à la dernière GTC. Et Samsung, il est à fond dans l'IA. Il a ouvert un labo pour l'AGI. Il doit, d'ailleurs, ce labo doit contribuer à mettre au point son accélérateur. Et donc, ce sera un accélérateur qui serait l'état de l'art dans le cadre de l'accélération pour l'IA. Et donc ça devrait constituer une concurrence sérieuse à Nvidia, concurrence qui s'organise d'ailleurs donc de plus en plus a priori. Voilà, il faut dire que bon, une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, ben, ça fait rêver, ouais. Hein, ça fait des envies. Et donc du coup, il y a une cible à abattre pour à peu près tout le monde de la tech, et elle a un blouson en cuir.
Jensen Huang avec son style qu'on aura bien identifié maintenant. Et très classe, hein. Il est toujours. Merci Guillaume pour cette revue matérielle, mais j'ai bien vu hein, le terrain sur lequel tu voulais nous emmener dans cette seconde partie d'épisode. Je vois clair dans ton petit jeu, Je vois clair dans ton petit jeu, tu voulais nous amener à parler d'intelligence artificielle et en particulier d'intelligence artificielle générative. Et puis, ben, ça continue. Hein. Je pense que c'est compliqué maintenant, de toute façon, de passer un épisode et une semaine sans qu'il y ait des nouvelles propositions de nouveaux services. Alors, plus ou moins convaincant. C'est quoi le niveau de la pêche de cette semaine, Guillaume ?
Ben, cette semaine, comme toutes les semaines, il y a encore eu plein de publications sur plein de nouveaux modèles de deep learning qui font des trucs magiques. Donc, on va se faire un petit tunnel où on va les évoquer sans trop rentrer dans les détails. Mm-hmm. Donc, on va évoquer ce que font les articles. Alors, on va commencer par Object Drop, qui est une recherche de chez Google hein, et l'Université de Jérusalem. Et son concept est assez simple, et on le voit vraiment très très bien arriver très prochainement sur un pixel, ce truc-là, d'une manière ou d'une autre. Hein. Son concept est simple, c'est effacer, ajouter ou déplacer des objets sur une photo de manière crédible. C'est-à-dire que non seulement bah, vous rajoutez l'objet, donc vous rajoutez n'importe quoi, hein, une tasse, un chien, un ballon, n'importe quoi. Mais vous rajoutez aussi ces effets sur l'environnement, c'est-à-dire les ombres, les reflets, voilà, et tout ça, c'est reproduit. Ou évidemment, si vous enlevez l'objet, ben voilà, ce sera enlevé, et les effets aussi, selon le cas. D'ailleurs, les chercheurs commencent par enlever des objets en réalité, donc ils vont constituer à la main plus ou moins un dataset de photos avec et sans un sujet précis. Donc une table avec et sans un verre de whisky, une savane avec et sans une girafe, et ainsi de suite. Et donc ils entraînent un modèle génératif dessus, et donc on fournit au modèle un masque de l'objet à virer, et on l'entraîne à générer une scène sans cet objet. Et ils aboutissent donc à un modèle qui sait retirer un objet d'une scène, et les effets qu'a l'objet sur la scène, voilà, du coup, bah, ils ont un modèle qui est fonctionnel, et du coup ils peuvent s'en servir pour synthétiser facilement des couples d'images où on a l'objet et pas l'objet, puisque c'est le but du truc. Du coup, ils ont des datasets synthétiques d'images où il y a donc des couples objets pas d'objets, et donc ils peuvent l'utiliser pour entraîner un modèle qui fait exactement l'inverse. On prend ce gros paquet d'images, et donc du coup, ben, on peut démultiplier les données disponibles pour entraîner un modèle qui rajoute des objets. Et du coup, qui rajoute des objets et leurs effets dans la scène de manière réaliste. Donc on prend une photo de table et une photo d'un vase, qu'on montre les deux au modèle, et puis on lui dit ben, « rajoute le vase sur la table ». Et il va créer donc la table avec le vase, et on aura le reflet du vase dans le vernis du bois, on aura l'ombre du vase, etc. Et comme extension de tout ça, ben on peut aussi déplacer du coup un objet dans une photo, hein, puisque ça combine les deux. Et donc on peut tout faire, rajouter, enlever ou changer des trucs dans une photo, et c'est quasi indétectable. Au premier regard, c'est impossible à repérer. Donc, pour continuer dans la manipulation des photos, on peut aussi parler de Flash Face, qui est une recherche de chez Alibaba. Alibaba et Ant Group. Ant Group, qui me semble, est la division financière d'Alibaba. Et le but, c'est de faire un peu comme avec Instant ID, donc en générer des gens avec des visages qui sont conformes à une photo de référence. Donc Flash Face semble marcher vraiment très bien, parce que vous prenez une photo, par exemple, de Mike Tyson, demandez Mike Tyson en Iron Man, demandez Mike Tyson sur une plage avec des lunettes de soleil, ou en version plus jeune de lui-même, vous aurez une photo réaliste à chaque fois, qui préserve à chaque fois son tatouage tribal caractéristique. Donc vous aurez la même tête et vous aurez le même tatouage. Flash Face vous imagine de manière parfaitement crédible dans toutes les situations et à tous les âges. Donc je vous laisse imaginer le risque d'avoir des photos de jeunesse, entre guillemets, compromettantes de tout le monde et de n'importe qui, hein, qui vont sortir comme ça, « Oh, regardez, il a fumé de la beuh, ou il a violé une chèvre, je ne sais pas, quand il avait 20, 21 ans. » Bon, voilà. Ce genre de truc devient possible officiellement avec Flash Face. Sachez que le modèle peut aussi vous faire changer de sexe, ou même mélanger deux personnes. C'est des heures et des heures de jeu. Bon, en ce qui concerne la génération d'images, on peut aussi mentionner rapidement Furyscale, qui permet à Stable Diffusion de générer des images de toutes les tailles, et pas seulement autour de sa taille nominale de 512x512, 1024x1024. Hein, Furyscale, il va aller altérer de manière subtile, mais en profondeur quand même, hein, le modèle, pour lui permettre de générer directement des images en 4K, si vous voulez. Sachant qu'on peut aussi générer des panoramiques, hein, c'est-à-dire des images qui sont très larges, mais pas très hautes, ou combiner ça avec ses LoRa favoris, voilà, il n'y a plus besoin d'upscaler, il faut être, hein, vous pouvez rendre directement le truc. Évidemment, le rendu sera très long, mais vous n'aurez pas ces espèces d'artefacts très bizarres que vous avez si vous rendez des images qui sont trop éloignées de la résolution nominale du modèle. Et on conclut ce petit tunnel de news avec un petit peu de 3D et Dream Polisher. Alors ça, vient de l'université d'Oxford. Dream Polisher, c'est en référence probablement à Dream Shaper. Dream Shaper, qui est un modèle custom de Stable Diffusion, qui est très populaire. Alors, à génération 3D, il y a pas mal de trucs qu'ils font, hein. Il y a pas mal de modèles qui font ça, mais pour le moment, ça peine
NVIDIA
un peu...
NVIDIA a présenté quelque chose, d'ailleurs, dans le cadre de cette
Stability.
Présentation, si j'ai
oui,
pas dit.
Oui. Oui, tout à fait. Stability a tout à fait... Ils ont présenté un modèle, ils ont sorti un modèle là-dessus, il y a la semaine dernière, je crois, qui marche, d'ailleurs, pas mal, mais qui, justement, ne rend pas des détails très fins, pour le moment. C'est-à-dire, ils ont un petit peu de mal à rendre
des détails. Mais si je me rappelle, ça t'avait pas encore complètement convaincu sur le rendu, il me semble.
Oui, alors je suis peut-être un gros enfant gâté, mais c'est vrai que j'étais pas complètement convaincu tout le temps sur les générations de ce truc-là, que je trouvais un petit peu de brut de décoffrage. Et justement, Dream Polisher, c'est ce qu'il cherche à faire. Il cherche à faire des modèles qui sont vraiment très fins, et il fait ça en deux passes. Donc il commence par générer à partir d'un prompt un modèle en nuage de points, un modèle 3D, mais avec des nuages de points, donc c'est un peu grossier. Donc le nuage de points, en fait, il est colorisé après par un générateur d'images. Le générateur d'images, il l'a entraîné, et donc il, si tu veux, avoir avoir différents... Il est entraîné sur des vues différentes, des vues à 360 degrés d'un modèle 3D. Et donc il va appliquer des couleurs, en fait, il va imaginer les couleurs sur le modèle d'un nuage de points en 3D, mais qui n'est pas coloré au début. Donc c'est lui qui va commencer à coloriser comme ça un nuage de points, qui sera donc en couleur, et qui va donner un modèle tout à fait reconnaissable, mais qui n'est pas très fin, très pas très très raffiné. Ensuite, on va le raffiner itérativement. Et là encore, on va utiliser un autre réseau qui va aussi le regarder sous tous les angles, et on va finir par avoir un modèle en éclat de gaussienne qui va être raffiné petit à petit. Alors, les éclats de gaussienne, les gaussian splatting, hein, qui vont atteindre un niveau de détail qui sera même supérieur à celui de Dream Gaussian, dont on avait parlé, je crois, il y a une éternité, il y a quelques semaines, à moins qu'il s'appelle Gaussian Dreamer, parce que je perds un petit peu le truc, parce que les deux existent, hein, il y a Gaussian Dreamer et Dream Gaussian, je ne sais plus lequel on avait parlé, mais on avait parlé d'un des deux. Et donc voilà, donc ça donne des résultats qui sont assez convaincants, donc ça continue à avancer quand même assez vite, hein. Et même la génération 3D se rapproche carrément d'un outil utilisable en production de plus en plus.
Magnifique, on verra quels sont les cas d'utilisation. Et puis tu voudrais nous attirer notre attention sur la gestion du niveau de détail, justement, Guillaume, des rendus.
Et oui. Donc on va encore un petit peu parler de Gaussian splatting, une technique qui continue à se raffiner. Donc, on a vu plein de raffinements des Gaussian splatting depuis la première fois où on en avait parlé. Hein. Donc les Gaussian splatting, c'est des manières de faire des photos en volume. C'est-à-dire, c'est des manières comme... Alors, avant, il y en avait les nerfs. C'était très lourd, très compliqué. Les Gaussian splatting sont beaucoup plus légers. Et ça permet de prendre une photo. Vous prenez plein de photos d'un endroit, et puis vous le laissez... Donc, vous le mettez dans un algorithme qui est un algorithme de machine learning, en réalité. Hein, même si c'est pas un truc de deep learning, c'est un algorithme de machine learning qui va donc vous pondre une scène en 3D dans laquelle vous pouvez vous déplacer, vous pouvez regarder sous tous les angles, qui va constituer vraiment une photographie volumétrique de la scène d'origine. Et en fait, on avait vu qu'on avait la possibilité d'animer le truc. Il y avait aussi des versions 4D, en quelque sorte, c'est-à-dire des vidéos volumétriques dans lesquelles on pouvait se déplacer. Et on a vu qu'on pouvait même rajouter de la physique. Parce qu'en fait, à la base, finalement, les Gaussian splatting, c'est des nuages de points. Bon, après, c'est des points qui ont des formes, qui sont un petit peu différentes. Hein. On dit que c'est des Gaussian en 3D. Donc en fait, c'est des sortes d'ellipsoïdes comme ça, qui sont plus ou moins transparentes, etc., qui se superposent, et finalement, ces nuages de points, bah, vous pouvez les utiliser pour avoir une idée volumétrique de chaque objet. Et du coup, si vous donnez une physique au Gaussian splatting, vous avez des objets physiques. On avait vu qu'on avait des Gaussian splatting en physique. Vous pouviez, par exemple, faire tomber des objets, les déformer, les déchirer, etc. Et donc ça, c'est assez pratique, et ça permet d'entrevoir quand même des applications qui se rapprochent de ce qu'on a sur des moteurs 3D plus classiques, hein, on va dire, qui sont à base de polygones, comme Unreal Engine, etc. Mais bon, même si c'est un net progrès par rapport au Nerf, ça reste quand même assez lourd, globalement. Hein, ça reste des trucs, surtout pour des scènes complexes qui demandent énormément de Gaussian, énormément de points, des scènes à grande échelle, quand on fait des zooms arrière, par exemple, je sais pas, vous imaginez, vous avez une ville, vous faites un zoom arrière comme ça, donc vous passez... partez du niveau de la rue, puis après vous avez plusieurs buildings jusqu'à une partie de la ville. Là, vous avez un nombre de Gaussian colossal, et évidemment, ça devient très vite fatigant quand même pour la carte graphique, tout ça. Et pourtant, vous allez me dire, moi, je vois ça tout le temps dans les jeux vidéo. Moi, j'ai joué à Spider-Man il n'y a pas longtemps, je suis parti dans une ville...
Je vois ça tout le temps dans les jeux vidéo, par exemple, dans Spider-Man.
mais totalement. Je veux dire, tu pars, t'es au niveau de la rue, tu te balances dans les... tu te balances au building, tu vois à perte de vue, tu vois la ville avec les buildings au loin, etc. C'est totalement fluide, ça choque plus personne. Et tout simplement parce que tous les jeux vidéo 3D du monde, sauf Minecraft, ont un système de gestion du niveau de détail. C'est-à-dire qu'ils possèdent plusieurs versions pour chaque objet de la scène avec plus ou moins de polygones. Et puis c'est pareil pour les textures. Hein. Les textures existent en plein de résolutions différentes qui sont stockées en mémoire vidéo. Et puis, au plus un objet est loin, au plus il sera rendu de manière grossière avec moins de polygones et des textures moins fines. De toute façon, comme il est loin, vous ne verrez pas la différence. Donc les jeux peuvent du coup se permettre d'avoir des distances de vue très importantes sans mettre la machine à genoux. Enfin, tous les jeux, sauf Minecraft, qui met une machine moyenne à genoux en ayant une distance de vue qui n'est même pas la moitié de celle de Skyrim. Puisque cet abruti gère toujours tous les cubes, quelle que soit la distance. Voilà, ce blaireau n'a pas de gestion du niveau de détail. C'est pour ça que ça rame autant Minecraft si vous avez une distance de vue importante. Et oui, 13 ans, 13 ans que ce jeu existe. 10 ans que Minecraft appartient à Microsoft, et 10 ans que la boîte de logiciels number one du monde n'a pas été foutue de mettre en place le niveau de détail dans Minecraft, qui est son jeu le plus populaire, hein, je le rappelle quand même. Hein. Ni même un moteur de rendu correct, d'ailleurs. Je comprends pas, ça me dépasse.
Il y a moyen de le modder, tu nous avais expliqué.
Ah, justement, complètement. Oui, sachez que ce que Microsoft est trop feignant pour faire, la communauté le fait à sa place. Il y a Distant
Horizon.
Et c'est
pour ça qu'ils le font pas. C'est qu'après tout, si tu veux vraiment que ce soit...
Non, mais c'est honteux. Là, pour le niveau de détail, il y a Distant Horizon, qui est un mode qui transfigure Minecraft en permettant de voir à des kilomètres. Comme quoi, c'est possible. Et je parle même pas des shaders qui existent depuis une petite décennie, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, je sens que je m'égare. Revenons au Gaussian splatting. Des Chinois ont donc eu cette idée lumineuse, que Microsoft n'a toujours pas eu, hein. Désolé, j'aurais dû arrêter.
Décidément.
D'utiliser cette technique avec les Gaussian splatting. Donc, ils maintiennent plusieurs niveaux de précision dans leur représentation, 3 ou 4 en général. Donc, avec le niveau 0, bon, le plus grossier, ben, vous avez droit à la même scène. Hein. Mais flou, tout simplement, parce que vous avez des Gaussian. Vous avez enlevé énormément de Gaussian, donc vous n'en avez plus beaucoup. Donc, vous avez votre image, mais elle est floue. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on utilise cette représentation que pour des portions qui sont loin de la caméra. Et pour faire tout ça, ils commencent par faire un truc qui est assez classique. Hein. Ils font une subdivision de l'espace en octree. Donc un octree, en fait, c'est une structure hiérarchique de l'espace. Vous divisez hiérarchiquement l'espace. En fait, c'est assez simple. La raison, elle est très simple. Hein. Imaginons que vous vouliez faire la même chose en 2D. Donc vous raffinez votre carré de manière hiérarchique. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que bon, vous avez votre carré, il faut imaginer votre carré, voilà, vous les divisez en 4 carrés égaux, voilà, vous mettez 4 carrés dans les carrés, voilà, vous les 4 carrés plus petits, puis chacun de ces carrés, vous le divisez encore en 4 carrés égaux, etc. Et donc, vous avez donc un raffinement multi-échelle, comme ça, de votre carré. Et c'est assez pratique comme division de l'espace. Pourquoi ? Parce que si un point n'est pas dans un des plus gros carrés, ben vous savez qu'il est dans aucun raffinement de ce carré-là. Et donc, pour localiser un point, ben on raffine, on va aussi profondément qu'on veut dans les petits carrés, mais on raffine finalement pas plus que nécessaire, et puis on s'arrête souvent assez vite, en réalité, dans cette hiérarchie-là. Et donc, faire un octree, c'est pareil, mais pour les cubes, pour les espaces. Donc, un cube est subdivisé en 8 cubes égaux, et ceux-là sont aussi subdivisés en 8 cubes égaux, d'où le octe de octree, hein, tout simplement. Et donc, cette structuration de l'espace permet de savoir assez vite où on se trouve pas, en fait. C'est surtout ça l'idée, c'est d'éliminer des grosses parties de l'espace assez rapidement, cette idée. Et donc, c'est utile pour savoir où sont les gaussiennes dans l'image, et voilà, dans quel cube elles sont, quoi. Hein. Et donc, dans quel cube elles sont, et est-ce que ce cube, il est loin ou pas. Et en fonction de ça, on va en ficher une version de la scène ou une autre, et on va donc éviter énormément de gaussiennes, qui représentent des détails que de toute façon, on voit pas. Et grâce à ça, les scènes complexes s'affichent jusqu'à 5 fois plus vite, et d'autant plus qu'on a des plans d'ensemble très très larges. Alors évidemment, si vous êtes dans une pièce de 10 mètres carrés, bien gérer le niveau de détail, on s'en fout. Hein. Mais par contre, dans un open world, c'est absolument crucial de gérer le niveau de détail. C'est ça qui fait que le jeu est faisable ou pas, en fait. Donc petit à petit, les gaussiennes se rapprochent d'une utilisation pratique crédible, hein, parce qu'on commence à avoir effectivement des outils et des techniques qui sont les mêmes un petit peu que celles dans le jeu vidéo traditionnel, et qui viennent compléter le rendu de base, qui font que ça commence à devenir de plus en plus crédible qu'on utilise ça dans des vrais projets. Quoi. Alors, on verra sans doute pas sur PlayStation 5, mais qui sait ce que le futur nous réserve. Hein. Donc, voilà.
On espère qu'il n'y a pas des développeurs de Minecraft qui nous écoutent. Ou peut-être si, d'ailleurs. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la maintenance de Minecraft qui nous écoutent.
Alors, c'est pas forcément leur faute à eux, hein, mais
c'est bien la faute de quelqu'un.
Probablement un cahier des charges, si tu veux. Mais bon.
J'avoue, bon, ok. Très bien, on continue avec l'intelligence artificielle générative. Et là, Guillaume, c'est un rapport toujours compliqué.
Ouais, semaine après semaine, on suit l'apparition de nouveaux outils super puissants et leur évolution jusqu'à devenir quasi mainstream, hein, comme ça, évidemment, comme là. Et bon, donc suffisamment robuste, hein, pour être utilisé en production, et évidemment, ça pose toujours plein de questions, hein, sur les métiers, sur la nature même du média, hein, de tous les médias, hein, graphisme, musique, modélisation 3D, doublage, tout ce que tu veux. Et donc oui, l'art, il y a, c'est toujours une relation très délicate. Et encore la semaine dernière, d'ailleurs, la BBC avait annoncé qu'elle voulait utiliser de l'IA pour la promotion de la prochaine saison du Doctor Who. Et ils se sont pris au retour de flammes violent, donc ils ont tout annulé. Bon, les fans de Doctor Who, ils ne sont pas fans d'IA, il semblerait. Après tout, c'est normal, je suis sûr qu'il y a eu plein d'IA maléfiques dans le show.
Ah ouais, peut-être show qu'ils ont plein d'exemples d'IA qui tournent mal. Ouais.
Je connais, voilà, c'est un show que je connais assez mal de... En tout cas, personnellement. En tout cas, c'est loin d'être la première réaction très négative des fans face à l'usage d'IA par les studios. On se souvient de la promotion de Loki, et même très récemment, d'ailleurs, des soupçons sur une photo de la promo de Deadpool Cross Wolverine. Là. Ça part facilement dans les tours. Mais pourtant, à l'autre bout du spectre, il y a Alex Ruben. Ruben, c'est un artiste en résidence chez OpenAI. Donc, je ne savais pas du tout, c'est une totale surprise. Pour moi, qu'ils aient un artiste en résidence, moi, c'est assez inattendu.
Qu'est-ce que ça veut dire un artiste en résidence ? Ça veut dire que c'est un artiste qui est à l'intérieur de chez
eux ? C'est un artiste qui expose chez eux, qui utilise leurs outils et qui collabore avec eux de manière durable, quoi, vraiment sur la durée.
Il est salarié
Probablement. C'est marrant. Je ne sais pas les détails, mais c'est tout à fait possible.
C'est beau comme emploi, t'imagines ? C'est classe.
Ah ouais, mais écoute. Mais c'est. Alors lui, justement, du coup, forcément, lui, il n'est pas forcément totalement anti-IA. Il s'amuse justement à la croisée des chemins entre art traditionnel et IA. Il prend des trucs générés, qu'il sculpte en dur, par exemple, ou alors il combine des morceaux d'images générées qu'il inspire et qu'il complète avec ses propres idées. Lui, il est intéressé par les interactions entre l'homme et la machine, et parfois, il exécute même une œuvre d'art qu'il a demandé à ChatGPT de lui décrire. Du coup, ça floute complètement la notion d'auteur, finalement. Là, c'est qui l'auteur de ce truc-là? C'est lui, est-ce que c'est Chatbot?
Pas évident.
Il itère donc aussi beaucoup en faisant des allers-retours entre les IA et lui. Voilà, il fait ça de manière très, très, très... Et alors, sans trop de surprise, il rapproche la génération d'images, en particulier de la photographie. C'est un argument qu'on avait déjà eu nous-mêmes, d'ailleurs, donc on va pas redévelopper ici en détail, mm-hmm. mais disons que la photo elle-même avait aussi été mal reçue en son temps, et qu'il n'était pas pensable à l'époque, hein, que quelques décennies plus tard, il puisse y avoir des photographes, des photographies artistiques, mmh. et voilà, des photographes professionnels qu'on considère comme des artistes, alors que ça nous paraît aujourd'hui tout à fait naturel. Donc il nie pas non plus que ça va faire disparaître des boulots, par contre. Hein. Et d'ailleurs, la photo a fait disparaître elle-même pas mal, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui peint un tableau publicitaire, tu vois, une affiche publicitaire, il n'y a plus personne qui peint dessus, et plus personne ne dessine un produit pour en faire la pub dans un journal, ça n'existe plus. Mais il y a d'autres choses qui existent, alors bon, voilà. Et puis il dit aussi qu'on est déjà inondé d'images, on était déjà inondé d'images avant Midjourney, hein, de toute façon, et qu'il y avait déjà des gens qui arrivaient à sortir du lot, hein. Ça sera pareil pour lui dans ce nouveau contexte. Lui qui est artiste professionnel, entre guillemets, mentionne aussi que la question de ce que c'est que l'art, de toute façon, ça reste constant et depuis toujours, et que c'est finalement assez personnel. Est-ce qu'une banane scotchée sur un mur, c'est une œuvre d'art vraiment? Pour qui? À quel degré de participation d'IA? Est-ce qu'on peut mettre la limite entre, voilà, pour dire qu'une œuvre d'art a été faite par un humain ou pas? Et quelle est sa valeur? C'est des trucs qui sont assez personnels pour lui. C'est des questions qui sont loin d'être résolues, hein, qui ne sont pas trop mon domaine, je dois bien l'avouer.
On ne fait que commencer à les aborder. Et puis, il y a d'autres questions qu'on ne fait que commencer à aborder. Et je pense que ce n'est pas arbitré avant un moment. C'est les cas d'usage et l'appropriation par le grand public des outils comme ChatGPT. Et puis, surtout, la crédibilité, hein, qu'on lui accorde, Guillaume.
Bon, on parlait des 200 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Je crois qu'on les a mentionnés dans l'hebdo. Bah, quelques petites news à leur propos, quelque part, et puis au propos de ChatGPT aussi, hein. En général, donc on a quelques statistiques un peu plus précises aux États-Unis. Donc il y a 23% des Américains qui ont déjà utilisé le chatbot, et c'est 7 points de plus que l'an dernier. Donc c'est en progression sur toutes les tranches d'âge, avec des différences très notables, bien sûr, hein, puisqu'il y a 43% des jeunes, entre guillemets, de 18 à 29 ans, mais seulement 6% des aînés, donc de 65 ans et plus, qui l'ont utilisé. Au plus on a fait d'études, au plus on est susceptible d'aller voir chez OpenAI. Donc il y a 37% des diplômés d'université contre 12% de ceux qui ont fait que le lycée. On y va à 20% pour travailler, à 17% pour apprendre des choses, et à 17% aussi pour le fun. Un pourcentage qui monte à 31% chez les jeunes, et ça dans tous les cas de figure. Donc là encore, c'est en progression, et c'est surtout une progression nette pour le boulot, globalement. Donc il reste 34% des adultes américains qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT. Et ceux qui l'utilisent font en général pas trop confiance, surtout ce qui concerne les élections. 38% ne lui font que peu ou pas du tout confiance. 10% un peu, et 2% seulement lui font plutôt complètement confiance. Donc des chiffres qui sont pas sensiblement différents entre démocrates et républicains d'ailleurs sur ce plan. Donc un usage de ChatGPT qui tend à se normaliser, mais avec méfiance, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Le Congrès a décidé d'interdire le copilote de Microsoft, qui est un GPT maquis, hein, sur les machines des élus. Donc là, c'est plutôt un souci de faire... c'est plutôt pour la fuite de données qui va sur des serveurs extérieurs comme ça, pour des hommes politiques, c'est pas très prudent. Donc c'est pas vraiment un problème de fiabilité. Par contre, pour le maire de New York, c'est vraiment un problème de fiabilité. Alors Eric Adams a voulu un chatbot pour My City, qui est le site de la ville, hein, donc le chatbot propulsé par les services de Microsoft. Donc c'est encore une sorte de copilote, et donc de GPT déguisé. Et qui s'est illustré par sa formidable incompétence, apparemment. Donc il raconte énormément de conneries. Et en particulier en matière juridique. Alors ça illustre bien le danger de ces trucs qu'on répète d'ailleurs à longueur d'épisode. Hein. Ils hallucinent trop souvent, et c'est pas détectable si t'es pas déjà connaisseur du sujet. Moi par exemple, j'y connais que dalle en truc juridique. Et en particulier sur le local à New York, hein, t'imagines bien. Donc si le bot me dit, comme il l'a déjà fait, que je peux ouvrir un restaurant qui accepte pas le cash, ben je vais le croire. J'ai aucune idée moi si c'est interdit ou pas. Bon, il se trouve que c'est interdit. La défense de la mairie, c'est de dire, c'est une bêta, c'est marqué d'ailleurs, hein, et puis il a déjà répondu juste à des milliers de gens. Et oui, c'est sûr, il est bien possible qu'il ait eu raison 90% du temps, mais 10% de conneries, ça annule toute sa pertinence dans la vraie vie, en fait, hein, ce pauvre chatbot. Donc c'est quand même assez étrange d'ailleurs que l'outil soit sorti dans cet état, parce qu'il y a quand même des moyens de faire, alors il y a plein de moyens en plus d'aller faire chercher des données qu'il ne connaît pas à un chatbot. Bing fait ça tout le temps, hein, de toute façon. Personne n'a testé ce truc plus de 5 minutes, hein, j'imagine, c'est un peu bizarre.
Ah, c'est bizarre, dans la mise à disposition, effectivement, ça aurait mérité peut-être des tests un peu plus approfondis, je ne sais pas. À croire qu'il y a eu une volonté de surfer sur une forme de hype. Guillaume, penses-tu ? On continue à parler de ChatGPT.
Oui, avec une étude de Stanford sur l'usage de ChatGPT par les scientifiques, qui est intéressante à deux titres. Alors la première, c'est qu'elle met en évidence que oui, les scientifiques utilisent ChatGPT pour rédiger leurs appréciations d'autres travaux scientifiques. Mmh. La revue par des pairs, hein, comme on dit, qu'on envoie un article proposé à la publication à des experts du domaine, qui sont sans lien avec l'auteur, et selon ce qu'ils pensent de la production, elle sera ou non publiée. Donc cette revue prend du temps, parce que ça consiste à lire attentivement un papier parfois très poilu, et à y dénicher des erreurs, donc on peut pas juste le survoler, hein, donc c'est du boulot, et c'est pas payé. C'est un peu ingrat, même si c'est nécessaire évidemment au processus scientifique, hein, il faut bien que les recherches soient contrôlées par quelqu'un, et par qui d'autre, hein, que des gens qui sont parfois pas très nombreux, hein, qui sont familiers du sujet, qui sont toujours très pointus. Alors comme c'est long, compliqué et ingrat, et que les chercheurs manquent toujours perpétuellement et désespérément de temps, ben, la tentation est grande de déléguer une partie du travail, surtout à un robot qui juge pas et qui parle de ça à personne. Mais comment le détecter ? Donc, et là on revient au problème épineux de détecter de la prose générée par un chatbot au milieu de textes naturels, entre guillemets. On sait que c'est très difficile parce que les chatbots parlent, ben, en tout cas, nous imitent très bien. Parce que c'est leur boulot, hein, finalement, de nous imiter. Donc l'approche des gars de Stanford, c'est là que c'est doublement intéressant, ça va être une approche stylistique. Parce que ChatGPT, il a un style. Il a un style pourri, peut-être, mais c'est un style. Et c'est pas forcément celui d'un scientifique moyen. Ils ont fait plusieurs essais, ils ont regardé la fréquence des verbes, des noms et des adjectifs qui revenaient le plus souvent dans les rapports sur des articles soumis à des conférences sur le deep learning, justement, avant et après l'apparition de ChatGPT. Ils ont trouvé rien qui cloche pour les verbes et les noms. Par contre, le profil statistique des adjectifs a changé en 2023, et ChatGPT est sorti fin 2022. On trouve une résurgence statistiquement improbable d'adjectifs comme notable, versatile, méticuleux, innovant, complexe, louable. Et bien sûr, on peut utiliser ces mots, bien sûr, il y a plein de gens qui, enfin, tout le monde utilise ces mots, moi-même, hein, mais c'est des mots qui sont 10 à 35 fois plus utilisés en 2023 qu'avant. Et ça, c'est quand même bizarre. Et puis franchement, ce sont des mots qu'on imagine carrément assez bien se retrouver dans des rapports pondus au kilomètre par ChatGPT. Il y a aussi un autre indice, ChatGPT ne cite pas les collègues. Alors que les scientifiques, oui. Ils citent et se réfèrent systématiquement, aux travaux antérieurs. Donc un plus grand nombre de citations est corrélé avec un usage moins probable de GPT. En utilisant ces indices, ils ont quand même déterminé qu'entre 10 et 17% des revues par les pairs sur les articles des conférences en deep learning ont été rédigées substantiellement ou substantiellement modifié en tout cas par ChatGPT. Okay. Et c'est assez notable, parce que rien n'a été trouvé pour la revue de Nature, d'ailleurs. Hein. Donc ça varie apparemment beaucoup selon les domaines de recherche, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, ils sont allés plus loin, et ils notent aussi des corrélations qui sont assez cyniques, même si finalement elles sont assez logiques. Par exemple, au plus on est proche des deadlines, pour envoyer le rapport, au plus l'usage de ChatGPT devient probable.
C'est tellement évident, j'adore.
Plus t'es à l'arrache, et au plus...
C'est
voilà,
génial.
Évidemment. Au plus on a utilisé ChatGPT, au moins on répond volontiers s'il y a des commentaires ou des contestations.
C'est formidable.
Au plus on a utilisé ChatGPT, au moins on accorde de crédit à sa propre évaluation. C'est-à-dire qu'on dit oui, on évalue, mais bon, voilà, non, mais je ne suis pas vraiment un expert. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Enfin, c'est presque le plus inquiétant. On note aussi une homogénéisation des rapports quand ils sont créés par un chatbot, ce qui est tout à fait logique. Si tout le monde utilise le même chatbot, bah tout le monde va finir par dire plus ou moins la même chose. Mmh. Et alors, c'est heureusement loin d'être complètement généralisé pour le moment. Cela dit, l'IA aura, comme dans tous les domaines, hein, et comme on en a parlé d'ailleurs dans un autre supplément il y a peu, un impact aussi sur la recherche et au-delà, sur tout ce qui découle de la recherche, c'est-à-dire sur tout.
C'est vrai. Ça promet, j'aime cet avenir que tu nous dépeins, Guillaume, qui est une tendance. Hein. Encore une fois, c'est pas généralisé, mais c'est une tendance. Qu'il faut identifier. Une autre tendance, Guillaume, c'était une espèce d'obsession, là aussi, de la part des chercheurs, d'aller retirer des petits morceaux des modèles de langage, couche par couche, hein, un petit peu comme si on allait comme ça découper des petites tranches de cerveau pour voir si ça continue à fonctionner.
Oui, oui, mon hobby, c'est le lobotomie. Non, mais c'est... effectivement, c'est très, très chelou. Je suis désolé. Non, oui, c'est vrai que ça devient un thème récurrent ici. Hein. C'est aussi parce que ça a l'air de se confirmer. Les modèles de langage, les gros en particulier, sont très redondants. Donc il y a beaucoup de redondance, en fait. Il y a beaucoup de poids qui ne sont pas forcément très utiles, apparemment, dans tous ces poids, dans toutes ces couches. Apparemment, il y a des poids qui ne sont pas très utiles. Alors cette fois, c'est une recherche de Meta, donc de Fair en particulier, en collaboration avec Cisco et Zifra, qui confirme, j'ai l'impression, ce qu'on avait dit en se basant sur un article chinois qui voulait raccourcir les modèles de langage. Donc je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça il n'y a pas très très longtemps. Donc, les modèles de langage qui sont un empilement de couches, hein, on rappelle, donc des couches qui se passent, donc vous rentrez une phrase, et puis après, voilà, vous avez donc des résultats intermédiaires comme ça qui se relaient, qui passent à travers des couches successives, donc vous avez des résultats intermédiaires qui se baladent jusqu'au bout où on peut lire le résultat final, et donc chaque couche change plus ou moins ce résultat intermédiaire, et les chercheurs chinois avaient constaté que certaines couches le changeaient, pas des masses en réalité, ce résultat. L'idée, c'était donc de virer les couches jusqu'à un certain point, et donc on conserve un modèle pas trop débile, mais plus petit, et c'est toujours ça de gagner, hein, vu les ressources que ça demande, ces gros machins. Et les chercheurs de Meta, ils font exactement la même chose. Mais ils rajoutent en plus un système de réparation. Donc ils regardent aussi à quel point les différentes couches d'un modèle de langage influent sur le résultat, alors sur le résultat intermédiaire, sur le résultat final. Et ils constatent un comportement qui est assez intéressant, qui est partagé par les lamas et les mistral, mais pas par les Quen, ce qui est assez rigolo. Donc si on les lobotomise petit à petit, je sais, c'est gore, hein, je sais, mais... C'est-à-dire, alors on les lobotomise, mais on fait quand même attention. On enlève que les morceaux de cerveau qui servent le
qui
moins.
Qui servent à rien.
Ouais, les couches les moins influentes. Donc attention. Donc on maintient en fait un bon niveau de performance sur des tests synthétiques. Hein, donc on regarde vraiment comment est-ce qu'ils répondent à plein de questions pour voir s'ils répondent à n'importe quoi ou s'ils conservent un petit peu de santé mentale. Et donc, ils conservent un bon niveau de performance jusqu'à ce qu'on enlève entre 30 et 40% des couches. Après quoi, les performances s'effondrent. Donc c'est assez marrant parce qu'ils deviennent brutalement débiles en fait. Et c'est un comportement, effectivement, que Quen ne suit pas, et donc c'est pas complètement universel. Et en fait, Quen, il est... donc Quen, c'est une autre famille de modèles de langage hein, par rapport à Lama et au Mistral. Et donc, apparemment, Quen est peut-être aussi mieux entraîné, ses couches sont peut-être plus saturées, donc il y a peut-être moins de poids dans dedans, c'est possible. Mais aussi, probablement, d'autres subtilités. En fait, les interactions entre les couches de Quen suivent un schéma qui est un peu différent. Et donc, virer des couches est plus casse-gueule, finalement, que chez les Lamas. Un lama 2, apparemment, c'est les lama 2, le gros lama 2, là, apparemment, c'est lui, c'est le plus facile. Tu vires les couches profondes, sauf la dernière, tu es assez sûr que ça change pas grand-chose, en fait, au résultat. Alors, pour faire maigrir lama 2, tu vires 30% des couches, par exemple, et des couches profondes, et tu conserves à peu près les mêmes performances. Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux encore pour pas cher? Est-ce qu'on pourrait guérir, finalement, un petit peu le modèle avec un petit traitement post-opératoire? Eh bien oui, apparemment, il suffit de fine-tuner le modèle et pour lui redonner un petit coup d'entraînement. Tu lui redonnes un petit coup d'entraînement après coup. Donc tu coupes les couches, tu vois, avec au scalpel, là tu viens.
Tu le lobotomises, puis après tu lui réapprends à fonctionner.
C'est exactement ça, tu lui lobotomises, ouais. Après tu refais des cours pour lui réapprendre les trucs qu'il a un petit peu oubliés. Voilà. Et bon, parce que voilà, tu coupes.
Quelle horreur.
C'est ça, tu coupes les couches, donc il va prédire un peu moins bien les mots, puis après tu fais une petite séance de rattrapage pour lui remettre un peu les idées en place.
C'est un peu la technique d'une baffe à sucre quand même. Hein.
C'est violent, mais pour l'instant, il n'y a pas de déclaration universelle du droit des IA. On s'en fout.
Profitons-en.
Et ça marche pas mal en fait. Hein, le fine-tuning qui peut être en LoRa, en fait, il peut être donc fait à pas cher, quoi, pour résumer. Ça améliore bien les performances sur des tests synthétiques et donc le comportement est plus uniforme aussi sur les divers tests et sur la perplexité aussi. Donc finalement, ça marche pas trop mal et donc c'est une méthode de compression finalement qui est indépendante de celle de la compression des poids dont on parle assez régulièrement ici. Donc on peut les cumuler, c'est-à-dire qu'on peut virer les couches qui sont pas assez bien remplies. Après on fait un petit tuning pour attraper au maximum la précision qu'on a, voilà. Puis après on lui compresse les poids encore violemment sur 8, 4 ou, voilà, ou 5 bits, ce que vous voulez. Et du coup, tout ça, ça peut être cumulé pour avoir des modèles qui sont toujours plus petits. Et qu'on peut aussi évidemment le voir différemment, parce que ça peut être, apparemment, hein, ces recherches convergeraient, parce que ça, c'est encore un autre indice, comme quoi les modèles actuels n'utilisent pas les poids qu'ils ont de manière optimale. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a une marge de progression significative en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont appris beaucoup de choses, mais qu'on peut leur apprendre encore plein de choses. Et ça, à taille, et donc à coût constant. Donc si on résume, entre les mélanges d'experts, les redondances des couches, la compression des poids, les réseaux ternaires, les expérimentations sur les diverses versions, sur les nouvelles architectures comme Mamba, etc., vous commencez à percevoir à quel point on est encore au tout début de tout ça, et à quel point les modèles vont encore évoluer et se développer, et que c'est encore quelque chose qui est vraiment foisonnant et qui est pas vraiment mature en fait, qui est encore en pleine explosion.
Voir que c'est si peu mature dans la techno et de voir déjà ce que ça apporte et ce que ça change, c'est assez dingue et ça laisse songeur pour la suite quelque part. Où tu vas nous reparler, Guillaume, de l'open source. Allez, une nouvelle ode à cette philosophie du développement.
Non, mais c'est plutôt des coups de gueule. C'est carrément plutôt des coups de gueule. C'est pas complètement open source, mais c'est vrai qu'il y a une partie, hein, parce que bon, là, on vient parler de choses enthousiasmantes. Et donc là, je vais faire une rubrique amère. Redis, c'est une base de données que j'avoue, je connaissais pas, une base de données qui s'utilise en mémoire. Elle est néanmoins très utilisée et jusqu'à il y a peu, elle est toute open source, et quand j'ai dit très utilisée, bah la boîte pèserait 2 milliards de dollars. Donc oui, c'est quand même très utilisé. Mm-hmm. Et à partir de la prochaine version, Redis passe en source ouverte. Alors donc ça veut dire que la source sera lisible, mais elle ne sera pas modifiable. Elle ne sera pas non plus utilisable par d'autres codeurs, hein, comme c'était le cas juste ici.
C'est plus
jusqu'ici.
Open source. Okay.
Elle n'est plus totalement open source, effectivement. Elle était en BSD, là elle passe quasi fermée en fait. Et c'est loin d'être la première, puisque MongoDB, Elastic ou HashiCorp ont fait pareil. HashiCorp, il cherchait même un acheteur, hein. Il a fait une IPO en 2021. Bon, c'est une bonne stratégie pour faire plus de pognon, sans doute, mais bon, voilà, ils se sont développés grâce à l'open source, hein, ces boîtes. Ils ont trouvé des clients avec ça, des clients qui les ont aidés à débugger leurs produits, et quand tout ça est bien mûr, ben, tu coupes l'accès, tu gardes tout pour toi, et voilà, tu fais du pognon avec, c'est pas très sport. Redis, c'est plus open source, donc il pourrait revenir plus cher à ses utilisateurs. Fedora et OpenSUSE se tâtent d'ailleurs pour se débarrasser des logiciels qu'ils utilisent. C'est d'autant plus envisageable qu'il y a déjà des forks de la version actuelle et qui restent en BSD hein, pour le moment. Et donc, parce que bah, là c'est encore possible, bon, on verra comment ça va tourner. Mais c'est vrai que les gros changements en amont sur des logiciels de base comme ça, et qui sont des fondamentaux en fait, hein, des fondamentaux comme VMware par exemple, ça peut carrément mettre en faillite tout un business. Et c'est ce qui risque de se passer avec Broadcom et VMware. Alors on avait parlé, hein, je ne sais pas si tu te souviens, de l'acquisition monstre de VMware par Broadcom, 67 milliards de dollars quand même, donc une acquisition historique hein, quasiment, une folie, hein, une somme de malade qu'il faut rentabiliser maintenant. Et donc on était déjà inquiets pour ça, on s'est dit, oula, avec ce qu'ils ont dépensé, ça va chier pour les clients de VMware, pour la, a priori. Hein. Et ben ça a pas raté, parce que là ça part en cacahuète, hein, ou en noix de cajou, je sais pas, en tout cas Broadcom veut du gros pognon bien frais et bien régulier. Donc il veut passer tout le monde à la souscription, et bien entendu, il a mis fin à la version gratuite de SXI, donc l'hyperviseur gratuit. C'est fini, le gratuit c'est fini, et puis de toute façon, voilà, c'était déjà limité, mais c'était déjà trop. Que tu sois en particulier une PME ou une GAFAM, de toute façon c'est pareil, il faut raquer chaque mois, il n'y a plus de licence perpétuelle, et du coup il faut raquer même beaucoup plus, et puis t'as pas vraiment le choix, parce que si t'as construit toute ton infrastructure avec VMware, t'es un peu captif. C'est très coûteux de tout reprendre à la base, parce que VMware, c'est un hyperviseur, donc c'est le truc qui est en dessous de l'OS, c'est-à-dire qui est juste au-dessus du silicium. Donc c'est vraiment un truc de base, quoi, et les changements sont soudains, et les hausses de prix, elles sont entre élevées et exorbitantes, et c'est à tel point que 4 associations européennes, dont le CIGREF en France, condamnent fermement le comportement de Broadcom. Le CIGREF, c'est une association assez ancienne, déjà, qui est une association des plus grosses boîtes et administrations donc, de France, qui sont utilisatrices aux solutions numériques. Alors, c'est pas super différenciant actuellement, je pense, utilisatrices aux solutions numériques, mais bon, voilà, c'est une grosse asso. Et avec leurs collègues allemands, belges et néerlandais, ils en appellent carrément à la Commission européenne. Hein. Broadcom aurait des pratiques abusives sur des clients captifs qui seraient contraires au principe de concurrence loyale, je cite. Donc, ce serait un abus d'exploitation. Et il faut à tout prix éviter la ponction exorbitante, illégitime et stérile, qui serait quand même de l'ordre d'une quinzaine de milliards d'euros au cours des 24 prochains mois hein, sur l'Union européenne, si Broadcom applique les tarifs qu'il a prévu d'appliquer. Quoi. Donc le CIGREF ne mâche pas ses mots, hein, et le CISPE non plus. Alors le CISPE, c'est rien à voir avec le robot. CISPE, c'est Cloud Infrastructure Service Providers in Europe, donc c'est les prestataires cloud européens, tout simplement. Et eux, les prestataires cloud, vous imaginez bien qu'ils utilisent beaucoup hein, les solutions de virtualisation, et en particulier celles de VMware, et même à 75% en réalité. Chaque machine invoquée dans le cloud, c'est une machine virtuelle VMware souvent. Donc dans certains cas, le prix des licences, donc toutes les licences ont été complètement remaniées, les prix ont pu être multipliés par 12 hein, certaines fois, c'est assez énorme, et donc les providers de cloud, ils sont en panique, et certains pourraient même ne pas survivre. Donc eux aussi appellent la Commission européenne à la rescousse, parce qu'ils affirment que, de fait, VMware, et donc Broadcom, doit être considéré comme un gatekeeper. Un gatekeeper comme Google ou Meta. Et parce qu'il aurait une position dominante, et donc il serait donc régulé dans le cadre du DMA comme eux. Comme on parle de Meta et de Google à longueur d'épisode. Quoi. Donc la CMA anglaise avait déjà sonné l'alarme un petit peu concernant la possibilité d'avoir des problèmes de position dominante avec cette acquisition. Il l'avait vu passer. Alors le PDG de Broadcom, Octan, pour l'instant, il dit que c'est pour mieux innover, tout ça, plus vite et quoi, c'est toujours plus efficace au service de ses clients, tout ça, et qu'il y a des licences qui ont baissé de prix, bon, c'est voilà, mais de toute façon, c'est modérément crédible parce que si t'es prêt à payer 67 milliards de dollars pour une boîte, bah, c'est certainement qu'elle a le monopole de quelque chose et qu'on pourra se rembourser en pressant bien comme il faut des citrons terrifiés qui peuvent pas s'échapper, quoi. Pauvre citron. Je vais voir cette image de citron terrifié à chaque fois que je prends ces citrons.
Ah,
c'est,
oui.
C'est horrible, je ne peux plus voir personne citron.
Ah bah oui.
Enfin, en tout cas, voilà, on vous tiendra au courant si l'Europe se lance dans encore une autre enquête, mais cette fois sur Broadcom, comme il l'a fait, comme il est en train de le faire sur Apple, Meta, sur Apple et Google et Meta, je crois. Donc bon courage aux prestataires cloud, parce que c'est long une enquête de l'Union européenne. Hein. Une bonne année.
Oui, j'en doute pas. Et on va terminer cet épisode avec une nouvelle qui va en peiner plus d'un, je pense. Hein. C'est l'arrivée lente, mais a priori assez certaine, Guillaume, de la pub dans Discord. Aïe, aïe, aïe.
Oui. Ben alors, en fait, c'est une rubrique où je vais parler d'autres trucs. Voilà, je vais parler encore de tristesse, d'amertume et d'inquiétude pour l'avenir sur des plateformes. Sur bah, plusieurs plateformes importantes hein, qui sont de qualité ou qui furent de qualité. Et c'est vrai que moi, j'avais vu passer aussi la mort de Vice. Enfin, la mort pour moi de Vice, parce que je veux dire, Vice, techniquement, n'est pas mort. Hein. Mais en pratique, son électroencéphalogramme est plat. Et parce que bon, moi, je suivais ce site depuis un petit moment. J'ai repris plusieurs news de Vice, d'ailleurs, de Moverboard.
Hein,
je t'en souviens certainement.
Absolument.
Et de toute façon, il n'y a plus rien qui sort depuis des mois. Moverboard, c'est fini. C'est mort, complètement. Et d'ailleurs, il y a un long article de The Verge qui décrit l'apocalypse de Vice, hein, qui finalement portait vraiment bien son nom, quoi, Vice. Puisqu'apparemment, Shane Smith, qui était le fondateur de Vice, s'est assuré des milliards de dollars de financement à la tchatch. En concluant des accords douteux, la gestion financière était complètement calamiteuse. C'est triste, hein, parce que c'est même presque banal. Hein. Vice produisait du contenu de qualité, et d'ailleurs ça a été récompensé plusieurs fois. Mais la division actualité, financièrement, ça ramait complètement. La boîte était dans le tape à l'œil, elle n'avait pas vraiment un modèle économique durable, hein, c'était secondaire. Donc Smith, bon, c'était un quasi-escroc. Il a été... après, il y a Nancy Dubuc qui est arrivée, qui lui a succédé, mais qui n'a pas vraiment fait mieux. Smith s'est concentré sur l'autopromotion. Dubuc, elle, il ne connaissait pas grand-chose aux médias. Et il y a une constante, hein, par contre, hein, c'est que les patrons avaient des salaires de footballeurs, alors que Vice a eu du mal à payer ses factures à temps et à payer ses journalistes et ses pigistes comme il faut, quoi. Donc voilà, le château de cartes s'est effondré en 2023, l'entreprise a déposé le bilan, elle a licencié des centaines d'employés et fermé son service d'information, donc elle a été rachetée hein, par un fonds d'investissement, je crois. Et voilà, bon, bah, Vice Studio veut se concentrer sur le contenu vidéo pour les réseaux sociaux, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs, bon, c'est tellement fumeux de toute façon qu'on se demande si Vice a jamais eu l'intention d'être une véritable entreprise ou si Smith l'a pas monté de toutes pièces pour se faire du blé. Mais bon, effectivement, autre plateforme d'autres plateformes qui risquent de changer qui ça me fera encore plus mal, je veux dire. Peut-être que truc, c'est Reddit, parce que Reddit, tu vois, on l'a déjà évoqué, hein, il est rentré en bourse il n'y a pas longtemps, et ça a été un feu de paille. Vraiment, hein, c'est parti fort, et puis bon, ça n'a pas duré. Puisqu'il a été, je crois que l'action a été introduite autour de $50, elle est montée à 68 dans la semaine qui a suivi, et là, elle est redescendue à 45. Donc voilà, presque immédiatement, de toute façon, les experts ont considéré que l'action était surévaluée, et comme par hasard, deux cadres de Reddit ont revendu massivement leur part dans la semaine. Et dont le CEO. Le CEO a largué 500 000 actions et la COO a largué 514 000. C'est pas la totalité de leur part, hein, loin de là, puisqu'on est dans le... Voilà, la CEO, par exemple, a dû liquider un quart de ce qu'elle possède. Mais quand même, si les perspectives sont bonnes, pourquoi tu vendrais si vite? Bon, quand je pense que Reddit a offert aux modérateurs les plus impliqués d'acheter des actions au prix plancher pour les récompenser, entre guillemets, de leur service... C'est quand même assez savoureux. Hein. Bon, enfin, c'est inquiétant quand même, parce que les investisseurs, du coup, ne doivent pas être super enthousiastes, évidemment. Eux, ils vont vouloir des bénéfices, ils vont vouloir que l'action remonte. Qu'est-ce que ça veut dire pour le vénérable Reddit hein, je sais pas. Des changements, sans doute pas pour le mieux, mais bon. Et c'est vrai, hein, on peut clôturer effectivement cette amère fin d'épisode avec ce que tu disais, hein, mentionnant que Discord va lui aussi mettre de la pub, voilà, afficher de la pub, et donc changer massivement de cap, hein, parce qu'il a résisté pendant des années à ça. Mais apparemment, les réalités économiques sont trop fortes, hein, et puis voilà. C'est des pubs qui sont pas trop intrusives, pour commencer, mais bon, c'est quand même un début, et bon, c'est vrai que c'est pas forcément super, hein, super joyeux de voir arriver de la pub aussi sur Discord, et il faut donc vraiment partout, quoi.
Dommage. Et en même temps, bon, bah, voilà, la pub, c'est aussi un modèle de rémunération qui aide, on le sait, hein, une partie... de ces entreprises, c'est pas forcément réjouissant parce qu'on appréciait aussi, je pense, que Discord en soit protégé. Après, voilà, c'était pas une pub de Discord, mais on sait qu'il y en avait beaucoup qui investissaient aux grandes dames de ceux qui gèrent des serveurs. de la pub, entre guillemets, en tout cas des promotions vers des trucs assez indésirables, mais c'est évidemment un autre sujet. Merci Guillaume pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café. On a à nouveau, je pense, rempli notre devoir qui a été d'animer une partie du quotidien de nos éditeurs en leur apportant une information qualifiés dont ils peuvent retrouver les sources dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr ou dans les notes de l'épisode du podcast, bien entendu. Et dans ces notes, on va aussi retrouver plusieurs choses, dont le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Mais donc, si vous cliquez sur le lien Discord, vous arrivez directement sur le serveur pour discuter entre vous et avec nous. Et évidemment, vous avez également un lien vers la page Patreon, patreon.com/techcafé, qui vous permet de nous soutenir et de profiter en échange du flux du podcast pour écouter les épisodes dans votre app de podcast favorite, sans la pub. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, bien entendu, je ne peux pas raccrocher de cet enregistrement sans rappeler aux auditeurs où on peut nous retrouver à titre individuel. Et Guillaume, par exemple, toi de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver? Attention, ne me dis pas qu'on peut te retrouver en train d'améliorer la gestion du niveau de détail dans Minecraft.
Non, non, mais tu m'as grillé.
Ah, mais...
Ah, parce que moi, j'allais dire qu'on me retrouve sur Minecraft, effectivement, mais uniquement avec des shaders grâce à Iris.
Ah, ça
marche. Et une distance de vue de fou grâce à Distant Horizon. Et rien de tout ça grâce à Microsoft, c'est des manchots chez Microsoft, bah, c'est tout. Et non mais sans rire, allez voir sur YouTube ce que Minecraft aurait dû être depuis 5 ans. C'est-à-dire Minecraft avec Distant Horizon, vous allez voir, c'est impressionnant. Et oui, les niveaux de détail, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout.
Merci Guillaume, on vous renvoie aussi hein, vers un épisode dédié à Minecraft que tu avais. Bah, j'ai un doute maintenant, c'était un hors-série de Tech Café ou c'était un paraculte?
Très bonne question, je crois que c'était un paraculte.
Merde !
Je crois que c'était un paraculte.
Ah ben, ce sera une bonne motivation pour vous. Paraculte est encore dispo hein, dans les apps de podcast. Allez regarder, il y a un épisode sur Minecraft où je crois que c'était Paraculte. Allez, merci beaucoup Guillaume pour la préparation. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, mais surtout dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.